Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à débuter. Une spéciale lutte environnementale et sociale, comme chaque dernier vendredi du mois, en partenariat avec des radios, de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Au menu, une info du jour quand même, Alternativa Rennes qui défend les trains de nuit. On va parler contrat d'engagement républicain, de la place des femmes dans le BTP et d'une asso qui défend les mobilités douces en Finistère. Il y aura de la musique, une nouveauté et puis une recommandation. Suivre le traditionnel comptage des oiseaux du mois de janvier. Bienvenue dans l'arène. Tous les jours, c'est pareil, on commence cette émission d'information locale avec l'info du jour que je retiens pour vous. Aujourd'hui, c'est Corentin, volontaire en service civique, qui s'en charge avec un invité en studio.
Samedi 27 janvier, l'antenne rennaise du mouvement écologiste Alternativa appelle à une action pour lancer un appel en direction de l'État pour un investissement plus conséquent dans les trains de nuit. Cela s'inscrit dans une vague nationale d'action en faveur de ce mode de transport. Je suis avec Gabriel de Alternativa Rennes pour en parler. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Pourquoi en tant que groupe qui milite pour l'écologie, vous appelez à une mobilisation sur cette thématique des trains de nuit ?
Tout simplement parce que en fait, soutenir les trains de nuit, c'est soutenir le ferroviaire en général, surtout dans une, on va dire une confrontation par rapport au trafic aérien. Il s'agit en fait de placer le ferroviaire comme transport idéalement numéro 1 sur les courtes et les longues distances pour privilégier en fait les mobilités douces. En fait, l'avantage du train de nuit par rapport aux lignes de train traditionnelles, c'est de réutiliser les infrastructures existantes, donc pas besoin de faire forcément de nouveaux investissements, de décentraliser le réseau et de proposer des alternatives avec des trajets qui peuvent être possiblement plus longs, mais l'avantage étant de voyager la nuit, on voit un peu moins le temps passer. On n'a pas l'ambition, comme l'avion fait aujourd'hui, de rallier deux villes européennes en moins de deux heures, le but étant pas d'avoir 5 rendez-vous dans la journée, mais de pouvoir tout simplement voyager sans avoir besoin d'être pressé et de faire ça avec le trajet le plus court possible.
Du coup, l'objectif, c'est de demander à l'État des financements pour promouvoir le train de nuit.
C'est de demander plus de financement des billets de train pour baisser les prix, que ce soit train de nuit ou train classique. Nous, on propose comme piste pour ces financements de taxer un peu plus l'avion, de rediriger ces subventions qui aujourd'hui vont vers les aéroports, de les envoyer vers le réseau ferroviaire. Aujourd'hui, donc, il y a eu une politique quand même du gouvernement de rouvrir des lignes de train de nuit, mais qui s'arrête un peu vite. En fait, il y a 4 lignes qui ont été inaugurées, mais il n'est pas prévu d'en inaugurer d'autres avant 2029. Donc sur toute la période 2024-2029, on a 0 ligne annoncée. Les 4 lignes de train qui aujourd'hui sont déjà inaugurées, c'est Paris-Strasbourg-Berlin, Paris-Aurillac, Paris-Bayonne-Pau-Tarbes et Paris-Montpellier. Mais là, on voit pareil que le maillage passe forcément par Paris. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est de pouvoir rallier les régions entre elles sans forcément faire ce trajet-là, ce qui permettrait entre autres aussi de désengorger peut-être les gares d'Île-de-France. L'État a une ambition pour 2030 de rouvrir plus de lignes de train de nuit, sauf que pour l'instant, il n'y a pas de budget qui est mis. Et nous, on sait que voilà, si derrière, il faut refaire des nouveaux trains, des choses comme ça, c'est quelque chose qui prend de 4 à 8 ans à peu près. Donc la décision, il faut la prendre très vite si on veut avoir cette ambition-là pour la suite. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on demande, clairement d'avoir une politique du train de nuit ambitieuse et des financements à l'échelle qui permettent de rendre cela tangible. L'État aujourd'hui est beaucoup dans une réflexion de l'offre et la demande, où ils disent que les gens ne demandent pas forcément des trains de nuit. Donc nous, c'est pour ça qu'on fait cette action, pour sensibiliser là-dessus, pour dire que si, il y a effectivement des gens qui demandent à ce que ces lignes soient rouvertes.
Du coup, pour pousser l'État à mettre en place les financements nécessaires, vous organisez une vague d'action depuis le mois de décembre à l'échelle de la France entière. Ça ressemble à quoi ces actions ?
Ces actions sont sensiblement calmes, on va dire. Hein. Il ne s'agit pas de faire des actions coup de poing. Nous, on va simplement, là, pour l'action en tout cas rennaise, faire un peu du bruit, enfin, juste de montrer qu'on est là et qu'on demande à ce qu'il y ait plus de trains de nuit. Nous, on a l'idée un peu, saugrenue, d'aller se présenter avec nos oreillers, peut-être un pyjama ou deux, ou des plaids, histoire de dire, regardez, on est bien dans le train, dans le train de nuit, de vanter le confort et d'inviter les gens à essayer. Parce que c'est un peu comme passer de la voiture au vélo, changer de mode de transport, le plus important c'est de faire le premier pas. Donc on est là pour dire aux gens, regardez, ça se fait, et les inciter eux-mêmes à prendre position, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on demande à un Français lambda, je pense pas qu'il soit contre le retour du train de nuit. Donc aujourd'hui, c'est d'inciter les gens à rejoindre le mouvement et à se dire oui, effectivement, moi, j'aimerais bien participer à ce développement du train de nuit, ou en tout cas à demander au gouvernement de relancer un peu ça.
À Rennes, du coup, le rendez-vous est donné samedi 27 janvier à 15h. Comment ça se passe pour participer à l'action ?
Eh ben, on sera présents, nous, devant la gare. L'idée, c'est pas forcément d'investir la gare parce que vis-à-vis des problèmes de sécurité, tout ça, on n'a pas envie de perturber le trafic. On a juste envie de faire acte de présence un peu devant. Donc, la gare de Rennes a une petite place un peu surélevée en extérieur où je pense qu'on va se retrouver. On devrait y être un peu avant 15h, donc tous ceux qui veulent participer peuvent venir à 15h, ils nous trouveront assez facilement. On a prévu des petits flyers, des slogans, des affiches. On a quelques revendications, mais on n'est pas là pour bloquer la gare, on n'est pas là pour empêcher quoi que ce soit. On est là vraiment juste pour sensibiliser à cette cause et à faire avancer sur le sujet.
Merci à toi Gabriel d'avoir répondu à ces questions. Pour avoir plus d'infos sur les avantages des trains de nuit, les raisons de cette mobilisation ou sur les différentes actions qui sont menées, vous pouvez vous rendre sur le site internet ouiautraindenuit.wordpress.com.
Allez, après cette info du jour, place au sujet de trois radios partenaires que je remercie. Elles sont toutes membres de la CorLab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. L'idée, lors de cette émission un peu spéciale, c'est d'élargir notre champ de vision sur des actions qui sont menées ailleurs en Bretagne, dans le champ des luttes environnementales mais aussi sociales, pour s'informer et puis pourquoi pas s'en inspirer. On part d'abord dans les Côtes d'Armor avec une interview de Morgane Large, journaliste chez RKB, Radio Crèze-Brèze, installée entre Rostrenin et Guingamp. Et Morgane, elle nous parle du contrat d'engagement républicain. Il se trouve qu'on l'a évoqué hier dans une info du jour consacrée à des associations brestoises privées de subventions pour leur engagement dans un squat culturel. Entré en vigueur en janvier 2022 et annoncé comme un outil de lutte contre le séparatisme, ce CER, il est en fait surtout utilisé pour limiter la liberté d'expression et d'interpellation des associations. Soumis à interprétation, ce texte crée par ailleurs une insécurité juridique et financière forte pour les assos. On écoute sur ce sujet Thierry Abaléa, qui préside le mouvement associatif breton, avec un rappel des menaces déjà prononcées à l'encontre d'associations ailleurs en France.
Le contrat d'engagement républicain, il monte en puissance au quotidien. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois où on n'a pas connaissance sur le plan national d'agissement au nom du contrat d'engagement républicain. Alors qu'est-ce que c'est que ce contrat d'engagement républicain ? Eh bien, c'est issu d'une loi qui devait s'appeler loi contre le séparatisme religieux, qui est devenue une loi de réaffirmation des principes républicains. Et dans cette loi-là, qui rappelle les obligations, notamment pour les pouvoirs publics, les services de l'État, de la neutralité des services, il y a un certain nombre d'articles qui inscrivent et installent un contrat d'engagement républicain pour les associations. Ça se concrétise par une petite case à cocher et qui dit que l'association qui sollicite une aide publique, une subvention, une mise à disposition de locaux, une autorisation d'occuper l'espace public pour une manifestation de quelque ordre que ce soit, se doit de signer ce contrat d'engagement républicain. Bon, c'est quoi ce contrat d'engagement républicain ? C'est globalement, l'association dit qu'elle s'engage à respecter 7 principes républicains. La laïcité, la non-discrimination, l'égalité d'accès, enfin rien de très dommageable. À l'époque où ce contrat d'engagement républicain dans la loi sur le séparatisme était discuté, le mouvement associatif et pas que, le Haut Commissariat à la vie associative, la Commission des droits de l'homme, la Défenseur des droits, avaient déjà évoqué un certain nombre de risques d'utilisation ce contrat d'engagement républicain à des fins de répression du monde associatif. On faisait partie de cela et donc on demande encore aujourd'hui l'abrogation de ce contrat. Pourquoi on le demande ? Non pas parce que les principes auxquels on nous demande de souscrire nous paraissent insupportables. Non seulement ils ne le sont pas, mais on a la prétention, nous, au mouvement associatif, de dire que le monde associatif, depuis son origine, donc 1901 mais même avant, et le socle de notre République et des valeurs de démocratie. C'est dans les associations qu'on apprend la citoyenneté, c'est dans les associations qu'on apprend à rencontrer l'autre et à combattre les discriminations. C'est grâce aux associations que les droits des femmes ont évolué dans ce pays, y compris en engageant des actions de désobéissance civile. Rappelons-nous les combats pour la contraception et l'IVG en France. C'est aussi dans le cadre des associations que la question autour de la prise en charge des personnes malades du sida a pu être mis au devant de l'actualité et que l'on a pris en compte la situation des malades et des patients dans la co-construction de politiques de santé en direction du sida. Je pense à des actions comme ACT UP, à l'époque d'ACT UP. Et donc, on a la prétention, nous, de dire que le monde associatif est toujours pionnier dans les libertés, dans le fait d'interpeller les pouvoirs publics et donc dans le fait de constituer le socle démocratique de notre République. Donc on n'a pas de problème avec la non-discrimination, le respect de la laïcité, le respect des valeurs de la République. Sauf que le constat au bout d'un an, c'est que les préfets se sont ingéniés à utiliser ce contrat d'engagement républicain pour tenter de bâillonner les associations qui n'étaient pas d'accord sur soit une réalité qui était de contester l'attribution de subventions à des associations qui contestaient des politiques publiques ou qui et semblaient être menaçantes pour le gouvernement en place, soit tout simplement en menaçant ces associations de la pire répression possible si elles émettaient simplement des avis contraire à l'avis officiel. Donc on est bien sur une mise au pas du monde associatif, sur une utilisation du contrat d'engagement républicain, et que ça, c'était dans les fondamentaux même de cette loi-là, c'était en germe dans la loi, c'est qu'il n'y avait pas, à notre avis, besoin d'un contrat d'engagement républicain pour que les associations promeuvent les libertés fondamentales dans ce pays. Et en plus, ce contrat d'engagement républicain, qui, rappelons-le, avait pour objet de lutter contre le séparatisme religieux, hein, rappelons-nous le contexte dans lequel on était, les attentats, Charlie Hebdo, Samuel Paty, etc. Ça se fait dans ce contexte-là. Et de vous à moi, c'est pas dans le monde associatif que l'on rencontre ce type d'action terroriste-là. Et j'imagine bien que les groupes terroristes islamistes intégristes n'ont pas besoin de la loi de 1901 pour se constituer et sont rarement en situation, même pas du tout, je plaisante en disant rarement, en situation de demander au pouvoir public une subvention.
Thierry Abalea, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples où s'est exercée répression, on va dire, par l'État, du monde associatif, par l'intermédiaire d'un chantage à ces subventions?
Oui, pour prendre des exemples sur le contrat d'engagement républicain, deux exemples, il y en a un certain nombre, mais deux exemples qui paraissent, deux ou trois, qui s'apparaissent très très symboliques du danger de ce contrat d'engagement républicain et de son application. Premier exemple, qui est sûrement le plus connu, qui est l'exemple d'Alternatiba à Poitiers. Alternatiba est une association de défense de l'environnement et pour l'écologie, connue pour un certain nombre d'actions d'interpellation des pouvoirs publics, toujours d'une manière non violente et j'insiste là-dessus. Il se trouve qu'Alternatiba Poitiers avait décidé de créer un village des transitions à Poitiers, une manifestation, un événement sur plusieurs jours qui permettait aux citoyens de s'engager sur les questions de transition écologique. Ils ont demandé une subvention à la ville de Poitiers et à la métropole de Poitiers, et ils ont obtenu cette subvention-là par délibération de la ville et la métropole. Il se trouve que dans le programme de ce village des alternatives et des transitions, il y avait un temps sur d'ateliers de réflexion et d'échanges sur la désobéissance civile. Désobéissance civile qui ne veut pas dire terrorisme, hein, contrairement à ce que pourrait quelquefois penser ou nous laisser croire Monsieur Darmanin. Eh bien, le préfet considère que de proposer un atelier sur la désobéissance civile était contraire au contrat d'engagement républicain, et il a non pas demandé à Alternatiba de renoncer, il a demandé à la maire de Poitiers et à la métropole de Poitiers de retirer leur subvention pour l'organisation de cet événement Village des Transitions. La maire de Poitiers, coup de chance, a refusé et a reproposer une délibération au conseil municipal et au conseil de métropole pour réaffirmer son engagement financier auprès d'Alternatiba et de cet événement-là. Il s'agit de 10 000 euros et de 5 000 euros, donc on n'est pas sur des millions, hein. Le préfet a décidé de traîner la maire de Poitiers devant le tribunal administratif au nom du contrat d'engagement républicain. Et donc on est dans cette période-là où on attend les résultats de l'instruction auprès du tribunal administratif. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui peut alerter nos auditeurs responsables d'associations, c'est la maison de l'environnement de Lille. À Lille, il y a une maison, un local, qui a pour vocation d'accueillir en son sein les associations qui travaillent sur ces questions d'environnement et d'écologie. Leur mission, c'est de pouvoir accueillir ces associations, de les accompagner, de les aider, de leur prêter du matériel, de leur mettre à disposition des salles de réunion, des salles de conférences, etc. Cette maison-là a accepté dans sa fonction de prêter une salle à un collectif de citoyens à Lille opposé à l'extension de l'aéroport de Lille. Eh bien, comme ce n'est pas une association mais un collectif de citoyens, le préfet, sur demande du président du Conseil régional des Hauts-de-France, est intervenu auprès de la maison de l'environnement de Lille pour leur dire de ne pas prêter cette salle à ce collectif-là. Ils ont été convoqués par le cabinet du préfet, ils se sont fait tirer l'oreille et globalement, comme des petits-enfants, on leur a dit ne recommencez plus hein, et la prochaine fois, soyez vigilants à qui vous accueillez dans vos locaux et si vous ne l'êtes pas, eh bien, on s'interdit pas de refuser de continuer à vous financer. Alors que c'est la mission première de la Maison de Lille. Donc ça veut dire aujourd'hui que des associations qui ont des locaux, qui prêteraient une partie de leurs locaux pour une soirée à une autre association, pourraient se voir inquiétées au titre du contrat d'engagement républicain. Troisième exemple, après je m'arrête là sur le contrat d'engagement républicain, ça a été le premier historique, c'est le planning familial à Chalon-sur-Saône qui avait demandé à la ville, au maire de Chalon-sur-Saône de pouvoir disposer de l'espace public pour un samedi après-midi pour de l'information sur les violences sexistes et sexuelles. Et ils demandaient à la ville de leur mettre à disposition un petit barnum pour pouvoir alerter la population de Chalon-sur-Saône sur les violences sexistes et sexuelles. La ville avait accordé son autorisation et le planning familial, hein, on parle du planning familial, donc une association majeure quand même en France, a commencé sa campagne de communication et il voulait sur les affiches de communication souligner la diversité des femmes dans notre pays. Et dans cette affiche-là où il y avait plusieurs portraits de femmes, il y avait une femme voilée. Le maire de Chalon-sur-Saône a considéré que c'était du séparatisme, que c'était contraire au contrat d'engagement républicain. Il a demandé au planning familial de renoncer à son événement et a refusé de leur prêter et l'espace public et le barnum demandé. On dénie la place des associations comme capacité un peu à bousculer l'ordre établi. On dénie les droits sociaux et les syndicats à représenter les intérêts sociaux des travailleurs parce qu'ils peuvent mobiliser des millions de gens dans la rue, tout le monde s'en fout. On dénie le rôle des parlementaires auxquels on bâillonne la prise de parole. C'est vraiment très inquiétant quant à l'état de notre démocratie et quant à cet autoritarisme politique que l'on voit poindre. Et je parlerai pas, mais peut-être que si quand même, de la place aussi des pouvoirs économiques aujourd'hui qui viennent en pression sur les citoyens et les associations. Alors l'exemple là immédiat, c'est tout le débat autour des bassines à Sainte-Soline. Toujours est-il que ce débat-là, il est aussi porté par des intérêts économiques particuliers et qu'en face, on a un certain nombre de citoyens qui, eux, n'ont pas d'intérêt personnel à cette affaire-là, si ce n'est une vision de l'intérêt général. Alors on peut ne pas être d'accord hein, avec cette vision de l'intérêt général que défendent les écologistes, notamment à Sainte-Soline. Mais en tout cas, le débat dans une démocratie mérite d'avoir lieu et qu'il ne peut pas être à égalité entre des gens qui ont un intérêt personnel à quelque chose et des gens qui défendent un intérêt général et un intérêt supérieur de l'humanité.
Merci. Merci Morgane. Morgane Large de Radio Crèze-Braise. On revient maintenant en Ille-et-Vilaine avec une proposition de radio laser qui est installée à Guichen. Cette fois plutôt dans le champ des luttes féministes. Une interview menée par Simon Leclerc, il est animateur, avec les filles du BTP. BTP pour bâtiments et travaux publics, s'il faut le redire. Cette association, les filles du BTP, elle est basée à Rennes et elle défend la place des femmes dans un secteur qui est culturellement masculin. On peut les retrouver en ligne sur les réseaux sociaux.
13% des gens qui travaillent dans le BTP sont des femmes. Elles étaient 8,6% en 2000. Alors oui, les plombières, les carreleuses, les conductrices de travaux et leurs consoeurs gagnent du terrain et de la visibilité. Mais en matière d'égalité des sexes, on le sait, jamais rien n'est vraiment gagné. Et c'est pour ça que mon invité a lancé un collectif qui depuis est devenu une association, les filles du BTP. Le projet, permettre à toutes les femmes qui le veulent de s'épanouir dans le secteur. Aujourd'hui, elle est la présidente de ce collectif, de cette association. Bonjour, Lucie Hamon.
Bonjour.
Alors, si j'en crois la statistique que je viens de donner, le BTP recrute de plus en plus de femmes. Qu'est-ce qui permet cette augmentation ?
Eh bien, écoute, l'association. la mise en avant des femmes en général, je pense qu'il y a... C'est en train de changer, les mentalités sont en train de changer, il y a de plus en plus de visibilité et on est là pour avancer et faire valoir le droit des femmes et le fait d'avoir une visibilité permet de petit à petit augmenter ça. Peut-être que les réseaux en sont pour quelque chose.
Des propositions comme la vôtre permettent à des femmes, peut-être des jeunes filles ou des femmes en quête de réorientation de se dire « bah oui, je peux aller dans le BTP, c'était pas le cas avant ».
Je sais pas. Je pense qu'en tout cas, ça aide. Et surtout, ça permet de que les jeunes filles ou les jeunes femmes y restent. Et surtout, croient un peu plus en elles, en mode, ben voilà, il y a des exemples de femmes qui ont réussi et qui y arrivent. Donc, elles se disent, ben pourquoi pas moi ?
Je pense que quand on n'est pas directement concerné, on ne se rend pas compte. Mais quels obstacles vont rencontrer ces femmes et ces filles qui ont peut-être un peu de mal à faire leur trou dans le monde du BTP.
Leur légitimité. Je pense que c'est pas forcément facile d'être dans le bâtiment. T'as toujours ce... c'est un côté très masculin. Et donc, tu te retrouves à dire, est-ce que je vais être capable ? Est-ce que je vais faire mieux ? En tout cas, est-ce que je vais réussir à faire aussi bien ? Alors qu'en fait, elles sont toutes complètement capables. Et je pense que ouais, c'est surtout ça.
Est-ce qu'on peut, Lucie Hamon, parler de votre parcours à vous ? Puisque j'imagine que créer les filles du BTP, ça s'est fait en réaction à tout ce que vous avez pu constater dans votre parcours professionnel. Peut-être qu'on peut en dire un mot ?
Alors, moi, je ne viens pas du tout du BTP. J'ai fait 15 ans de commerce et à la suite d'un burn-out, j'ai... En fait, je faisais déjà beaucoup de rénovation et donc je faisais mon boulot plus de la rénovation en perso. Et puis un beau jour, ma psy m'a dit, pourquoi vous ne faites pas de votre passion, votre métier ? Et donc je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Voilà, quand on parlait de légitimité, moi, je ne m'en sentais pas capable alors que j'avais rénové des maisons entières du sol au plafond. Et puis, je me suis lancée et finalement, aujourd'hui, j'ai ma société de rénovation de maisons. Et puis, j'ai une spécialité en élec et en plomberie.
Vous avez beaucoup de consoeurs, vous savez, si beaucoup de femmes exercent une profession comme la vôtre ?
Je sais pas. Non, il y en a pas assez à mon goût. Mais bien sûr qu'il y en a. Après, sur du projet clé en main, peut-être que je suis un peu une extraterrestre, je suis complètement cinglée de proposer ça toute seule. Mais en tout cas, il y a bien sûr qu'il y en a. Et en tout cas, le but, c'est de continuer à promouvoir la place de la femme dans le bâtiment.
Alors justement, l'association Les Filles du BTP, l'idée, c'est de pouvoir se retrouver entre femmes du secteur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement ?
Alors, en interne, on s'apporte beaucoup de soutien, beaucoup de conseils. On va faire des webinaires. Moi, je tiens aussi particulièrement à ce que les filles se sentent bien, qu'on puisse se retrouver lors d'événements, qu'on puisse aussi Voilà, rigoler, parler des choses qui sont pas forcément très rigolotes, notamment je pense aux mamans qui sont chefs d'entreprise et mamans et artisanes. C'est pas toujours évident, même celles qui sont pas chefs d'entreprise, voilà, il y a des fois, c'est pas toujours facile.
C'est ça, parce qu'en fait, une fois la journée terminée, il y a la fameuse deuxième journée, parce qu'on va pas se leurrer, c'est encore en grande majorité les femmes qui s'occupent de la maison. C'est un triste constat, mais c'est la vérité. Comment les femmes, justement, elles font pour composer avec des métiers qui peuvent parfois être exigeants physiquement, et cette deuxième journée?
Eh ben, c'est des Wonder Woman. Non, vraiment, c'est assez impressionnant, parce que je sais pas comment elles font ou comment on fait toutes, mais en tout cas on a une force qui fait que en fait on le fait et il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de timing, tout est, je pense que ouais, vraiment c'est principalement de l'organisation au départ. Ouais.
Si vous nous rejoignez, on est en compagnie de Lucie Amand. Elle a créé l'association, elle en est aussi la présidente, hein, au passage, je le précise, les filles du BTP. L'idée, c'est de créer, on peut le dire, c'est un réseau de femmes qui travaillent dans le BTP pour s'apporter un peu de force, de soutien.
C'est exactement ça, ouais.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux employeurs qui vous écoutent en ce moment, aux patrons qui rechignent à engager des femmes dans le BTP? Comment vous pourriez les motiver à passer le pas?
Elles sont vraiment Wonder Woman, je le répète, mais c'est vraiment ça qui ressort systématiquement. Et elles sont souvent, très souvent, beaucoup plus soigneuses. Attention, hein, je ne vais pas dénigrer des artisans qui font du très bon boulot, mais plus consciencieuses, plus minutieuses et vraiment motivées. Ouais.
Après, dans un secteur comme le BTP, j'imagine qu'on va souvent mettre la force physique des hommes en valeur. Les femmes, elles ont des atouts aussi à faire valoir.
Ouais, complètement. Et de toute façon, la force, au final, aujourd'hui, les technologies nous aident énormément. Et moi, je trouve que ça devient ridicule quelque part, cette histoire de force. Et il faut arrêter avec ça, parce que de toute façon, on a des collègues qui sont pas plus gros et plus forts que nous. Et de toute façon, même s'ils s'amusent à porter des trucs hyper lourds, ils deviennent cassés. Donc en fait, il faut penser différemment, voir les choses complètement.
C'est les clichés en fait qui freinent les femmes dans le BTP.
Exactement, ouais. Et les employeurs n'aident pas forcément. Ouais. Et si j'avais quelque chose à dire sur les employeurs, faites en sorte que ça se passe bien dans l'équipe, mais aussi pensez à les soucis un peu plus techniques pour pouvoir se changer, le matériel, les vêtements aussi, c'est important.
Comme on a de plus en plus de femmes qui rejoignent le BTP, c'est là-dessus peut-être qu'il va falloir appuyer un peu à l'avenir pour que les femmes se sentent encore plus intégrées au secteur.
Ouais, je pense qu'il faut... D'ailleurs, on a mis en place un partenariat avec une marque de vêtements professionnels qui nous soutient énormément et qui prend nos retours en compte. En fait, on est habillé par cette marque. Et c'est vraiment super important pour
Qu'est-ce
nous.
Qu'est-ce qui va changer? Ça va être quoi les différences avec des vêtements traditionnels?
Eh ben, en fait, on a des vêtements qui sont adaptés à notre morphologie. On va avoir des vêtements qui sont aussi confortables, qui vont correspondre à nos métiers. Et puis surtout, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et pour nous toutes d'ailleurs. Ne pas ressembler à un sac à patates quand on arrive sur chantier, même par rapport aux clients, etc. Enfin, l'image, c'est quand même la première chose qu'on renvoie. Et malheureusement, on a des clichés qui font que on est encore « Ah, vous êtes une femme, c'est qui l'artisan ? Vous êtes la stagiaire ?» Non, pas vraiment, c'est moi la responsable, la gérante de l'entreprise. Donc, c'est avec moi que vous allez gérer. Donc, effectivement, je trouve que d'avoir une tenue propre, confortable et qui nous va, c'est important.
Bon, Lucie, on l'a entendu. On a beaucoup de progrès à faire en tant que société sur ces questions de la place des femmes dans le BTP. Si on est intéressé par tout ce que vous avez dit et surtout si on veut approcher les filles du BTP, comment on s'y prend?
Alors, il y a plusieurs solutions. Et il y a la première solution, c'est Hello Asso. Vous allez pouvoir retrouver notre charte, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on fait et pouvoir adhérer, si vous le souhaitez. Donc on a en tant qu'artisane, vous pouvez adhérer au titre de l'association, ou autrement, vous pouvez nous soutenir avec une cotisation qui est en membre d'honneur, voilà, et en femme et homme, et que vous soyez du bâtiment ou non.
Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais évidemment, les hommes ont leur rôle à jouer, donc ils peuvent approcher les filles du BTP aussi, et puis peut-être participer à un certain niveau.
Oui, complètement. On n'est pas du tout fermé. Au contraire, moi, le but, c'est vraiment de promouvoir la mixité et qu'on se retrouve à travailler ensemble et que ça se passe bien. Donc, les hommes sont sont vraiment les bienvenus. Et puis, ils peuvent nous aider. Mais, vous pouvez aussi nous relayer, partager. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux, les filles du BTP.
Je vais remercier mon invité, Lucie Amand, et je rappelle que c'est la présidente des filles du BTP. Merci à vous.
Merci à vous.
Au loin, l'avenir, la fin.
Sarah Kiniko avec le morceau « L'avenir, la fin » sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album autoproduit, « Dehors », c'est son titre, qui est sorti le 13 octobre dernier. Le deuxième disque de ce musicien qui tire son nom alors d'une plage à l'allure lunaire en Grèce, mais c'est aussi, sans le savoir, la traduction du sarrasin, plante emblématique de la Bretagne, d'où vient Sarah Kiniko. Vous écoutez La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, une émission écoutée du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr. Et je redis un mot sur cette newsletter, le courrier de La Reine, envoyé aux abonnés chaque vendredi, une façon de mettre en lumière les sujets qui ont été abordés au cours de la semaine. Si vous êtes vraiment mordu de cette émission d'info locale, vous pouvez toujours vous y abonner en m'envoyant un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Allez, on poursuit cette émission consacrée aux luttes environnementales et sociales en Bretagne. Je le redis, en partenariat avec trois radios membres de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. On prend maintenant la direction du Fou en Finistère, du Faou. Il faut vraiment que je redemande à Véronique Museau comment on prononce le nom de cette commune. Commune qui abrite les locaux de Radio Transistor, ex-Radio Évasion. Et alors Véronique Museau, justement, elle y est animatrice et nous présente aujourd'hui Coup de Pompe, une association qui a été lancée du côté de Landerneau.
Dans la dernière tranche de l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion qui devient Transistor, parce que la radio, parce que le Finistère, parce que la transition écologique aussi. Elle passe par toutes sortes d'actions, cette transition, notamment les associations. Certaines mènent des actions très concrètes, dans un but très précis. Par exemple, Coup de Pompe à Landerneau, qui veut nous faire du vélo, et pas seulement de vélo d'ailleurs. Michel Tessier est l'un des fondateurs de cette association. Il nous la présente en commençant par son nom, Coup de Pompe au pluriel.
C'est un terme qu'on avait trouvé plutôt bien. Ça parle en même temps et de marche à pied avec les pompes et puis de coups de pompe regonfler les pneus et puis aussi de faire avancer les choses en secouant un petit peu le cocotier. Donc il y avait tout ça dans ce nom-là. Voilà, Coup de Pompe à Landerneau. Ça a été créé en 2019. On s'est créé sur l'envie de parler de mobilité autre que la voiture individuelle, contre laquelle on n'a rien. Mais elle est utile quand elle est utile. Et puis, il y a plein d'autres possibilités. Donc, les transports en commun, bien sûr, c'est avant tout, on est des gros utilisateurs de transports en commun, de TER, de bus, etc.
Landerneau est bien pourvu en TER.
En TER, Landerneau est très bien pourvu. Et moi qui le prends tous les jours, justement, de Landerneau à Brest, j'ai vu ça grimper depuis, je ne vous dis pas depuis combien de temps, mais ça fait très longtemps. Et en tout cas, oui, il y a beaucoup de monde dans le train. Beaucoup de monde avec des vélos, beaucoup de monde.
Ce qui peut créer d'ailleurs des problèmes.
Ce qui peut créer des problèmes.
Le train n'est pas toujours adapté. Ouais.
Mais non. Et les vélos eux-mêmes, parfois, certains sont énormes. Hein. Il y a des vélos électriques qui sont importants parce que c'est fait pour transporter des gamins et tout. J'en parlais avec un gars qui le prend régulièrement. Là, lui-même est un petit peu gêné de faire rentrer son vélo comme ça dans le train. C'est pas évident. Il y a des limites aussi en termes de taille. Mais voilà, donc le train, ouais, à Landerneau, c'est vraiment central pour se déplacer. Et puis, l'incontournable vélo, parce qu'on parle beaucoup de vélo ces dernières années. La trottinette, et c'est problématique, nous dirons.
Nouvelle, récente.
Oui, voilà, qui font naître des débats. Et puis, la marche à pied, qui est quand même le moyen numéro un de se déplacer. Voilà. Mais qui n'est pas facile à promouvoir, la marche à pied, parce que y a rien à montrer, il n'y a pas d'objets, il n'y a pas de belles choses rutilantes, il n'y a pas de nouveautés tous les ans. Voilà, la marche à pied, ce n'est pas facile. À part la randonnée, mais la marche du quotidien pour aller faire ses courses, ce n'est pas facile à promouvoir.
Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un intérêt santé, quand même, qui est de plus en plus souligné. Il faut marcher.
Ouais. L'intérêt santé et l'intérêt économie. Si on se déplace pour aller faire ses courses à 800 mètres en voiture ou à 1 km, si on y va à pied, c'est des économies d'argent. C'est là-dessus qu'on s'est créé et puis qu'on essaye d'avoir des liens et avec d'autres associations, d'une part, donc avec la Fédération des usagers de la bicyclette, dont on est membre. C'est une fédération nationale qui promeut la bicyclette et je vous conseille d'aller sur leur site pour les gens qui nous écoutent parce que c'est vraiment très riche.
Oui, il y a plein d'informations.
Oui, beaucoup d'informations. Et puis avec aussi les institutions publiques, avec les élus, On va régulièrement sur des communes aux alentours de Landerneau participer à des sensibilisations sur la création de voies vertes, de chemins de randonnée, d'aménagements urbains aussi. On essaie de donner des avis là-dessus sur les aménagements des bourgs. Et puis sur l'intérêt du vélo pour des déplacements de 2, 3, 5, 10 km. Le vélo électrique en particulier, qu'elle vend en poupe, hein, voilà, qu'on fait essayer aussi parce qu'on en a quelques-uns dans l'assaut. Donc
oui, ça démocratise vraiment le vélo, hein, c'est vrai.
Oui, ça facilite vraiment pour beaucoup de gens l'usage du deux roues, quoi.
Et donc vous êtes plutôt une association à la fois d'éducation, on va dire, de sensibilisation et puis un peu un lobby auprès des élus, hein, c'est ça
Oui, on pourrait le dire comme ça. On pourrait le dire comme ça. C'est vrai qu'on essaye de peser un petit peu sur les décisions, bien que, oui, notre poids soit quand même léger. Hein. Les élus continuent à faire, évidemment, ce qu'ils souhaitent faire et on n'a pas de pouvoir très important. Mais on essaye, en tout cas, dans le dialogue et dans l'échange avec eux, et dans le conseil, parfois. Et puis, on essaye aussi, parfois, quand même, de rappeler qu'il y a des règles qui s'appliquent et que si des aménagements ne sont pas faits dans les règles telles que prévoit la loi, on est aussi susceptible de faire des recours ou d'aider, de se faire aider dans ce domaine-là. Il y a une association dans le Finistère qui s'est un peu spécialisée là-dedans, qui est dans le sud Finistère d'ailleurs, je crois, qui aide les associations qui le souhaitent à mettre un petit peu en garde des collectivités qui ont fait ou sont sur le point de faire des aménagements qui ne respecteraient pas les règles de façon à ce qu'on...
Ah oui, par exemple, qu'est-ce que ça peut être ?
Ce serait par exemple l'aménagement de nouveaux quartiers où ne seraient pas aménagées des pistes cyclables, où ne seraient pas aménagées...
Est-ce que c'est obligatoire maintenant ?
C'est obligatoire, oui.
C'est pour à savoir.
De vraiment faire ce genre de choses dès la conception. Et voilà, eux sont vraiment là-dedans. Et donc, on peut leur envoyer des photos d'endroits sur lesquels on a un doute. Et eux peuvent nous dire, voilà, on vous conseille ça. On vous conseille de discuter sur ce point-là avec la mairie ou avec une autre instance. Et puis, si vraiment ils continuent, oui, vous pouvez leur dire qu'il y a un recours possible qui les obligerait à refaire les travaux dans l'autre sens, ce que, vu l'état des finances publiques en général, les collectivités n'aiment pas trop, quoi.
Autant faire les choses bien du premier coup.
Voilà.
Donc vous êtes vigilant, enfin, vous êtes là aussi pour...
On est là aussi pour ça, parce qu'à un moment, il faut aussi se dire qu'on n'est pas juste là pour donner des conseils ou pour être consulté, mais aussi pour parfois dire, attention, là ça, c'est pas bien de faire comme ça. Voilà, et puis on essaie d'accueillir aussi les gens qui ont des vieux vélos chez eux, qui ne savent pas quoi en faire, qui voudraient peut-être les remettre en état, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc on les conseille là-dessus, on resserre parfois un frein.
Vous faites un peu d'atelier réparation.
Oui, on fait un atelier réparation et on a monté il y a quelques temps et on est très content de ça. On cherchait un local sur Landerneau pour nos activités. Et finalement, une sorte de miracle s'est produit. On a été contacté par l'EHPAD de Landerneau, qui se trouve au bord de l'Élorne, qui est sur un site magnifique. Et avec deux autres associations avec qui on est partenaire, le Repair Café et la Fourmilière, qui est une association qui prête des objets.
Une objettech, c'est ça ?
Une objettech, tiens, c'est
ça. Il y en a une à Quimper.
D'accord. Oui. Alors, je ne sais pas s'ils se définiraient comme ça, mais en tout cas, ça me paraît assez juste par rapport à leur activité. Avec ces deux autres associations, Coup de Pompe organise des ateliers dans un local que l'EHPAD met à notre disposition tous les deuxièmes samedis du mois, de 14h à 17h. Et donc, les gens savent qu'il y a ce rendez-vous-là et qu'ils peuvent apporter des objets de toutes sortes, puisqu'il y a un Repair Café. Et aussi des vélos, des trottinettes, des choses comme ça.
Et ça fait de l'animation dans l'EHPAD.
Et ça fait de l'animation dans l'EHPAD. Les pensionnaires viennent nous voir aussi, discuter. Ça fait de la circulation de personnes de différentes provenances. Voilà, c'était un souhait et de l'EHPAD d'abord, parce que c'est eux qui sont venus vers nous. Et de nous qui cherchions des locaux comme ça, qui soient faciles à utiliser et qui soient au cœur de la ville. Et là, c'est vrai que l'endroit est chouette, juste au bord de l'Élorne.
Et vous envisagez éventuellement, ça se fait de plus en plus, et je crois qu'il y a de la demande, de monter une vélo-école pour apprendre aux gens à faire mieux du vélo, on va dire ?
Alors nous, on aimerait bien faire ça. On n'a pas pour l'instant les ressources en bénévoles suffisantes. On est une dizaine à peu près de très actifs au sein de l'association. Et puis, sur des événements, on arrive à se relayer et à être plus nombreux que ça en personnes qui vraiment s'impliquent. Mais voilà, par rapport à la création de l'association, où vraiment des dizaines de personnes se sont montrées intéressées, depuis, le soufflet est un petit peu retombé. Et puis le Covid est passé par là aussi, et puis les gens partent faire aussi d'autres activités. Et puis entre-temps aussi, la mairie et la communauté de communes ont mis en place des vélos en location, etc. On bougé là-dessus, donc peut-être que beaucoup de gens se sont dit « Bon, finalement, ça y est, c'est lancé, il n'y a peut-être plus besoin d'eux. »
Donc on relance un petit appel à bénévoles.
Voilà.
S'il y en a qui veulent instruire les autres des techniques de vélo.
Tout à fait, parce que nous on aimerait bien faire ça. On va dans les écoles un petit peu déjà en parler, mais on aimerait bien oui, faire une petite école de remise en selle. Ça nous est arrivé de le faire, mais de façon très occasionnelle, parce que oui, c'est du boulot.
L'association Coup de Pompe, vous mettez coup et pompe au pluriel et vous mettez un D apostrophe au milieu. Et vous trouvez notamment le profil de l'association sur Facebook pour pouvoir les contacter.
Merci à Morgane, Simon et Véronique pour leur participation à cette émission collaborative que j'essaye de vous présenter depuis le mois de septembre 2023. Avant de se quitter, quand même, l'incontournable recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes de podcasts, de documentaires ou encore de lectures, souvent aussi d'événements à vivre plutôt dans la région rennaise et que je n'ai pas le temps d'annoncer dans le détail. Aujourd'hui, on annonce le comptage des oiseaux organisé en chaque mois de janvier en Bretagne et en Loire-Atlantique. C'est une initiative de l'association Bretagne Vivante, mais aussi du groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor, GEOCA. En 2023, ce sont près de 4500 jardins qui ont été suivis avec cette opération. Et donc, on remet le couvert là ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 janvier. Deux jours durant lesquels les habitants sont invités à s'installer une heure dans leur jardin ou alors dans un parc sur leur lieu de travail s'ils bossent le week-end. Et l'idée, c'est de noter dans un petit tableau qui est à retrouver en ligne sur le site de Bretagne Vivante les espèces qui sont présentes autour de nous. L'objectif, il est simple mais ambitieux, connaître pour mieux protéger les oiseaux. Je vous laisse avec la voix de Mathieu Boffis, il est ornithologue chez Bretagne Vivante. On l'avait rencontré en 2020 tout près des champs libres à Rennes.
Il y a du pigeon là derrière qui est présent. Pas grand chose. Du chouka.
Est-ce qu'on vient d'entendre ?
Tiens ! Un nouvel oiseau à Rennes. Quand je dis petit. 10 ans. Ils ont une dizaine d'années dans Rennes. Les oiseaux vont, ça va, ça vient, ça évolue. Little bird, you look alright. I'm sure it's not easy getting through your night. Les petits oiseaux, par exemple, les gens appellent tous ça moineau. Mais en fait, quand on a la petite fiche sur la main, on s'aperçoit qu'en gros, il y a une 10 à 15 espèces, une quinzaine d'espèces, je dirais, qui sont dans les jardins. Elles représentent plus de 95% des espèces qui sont vues dans le jardin, c'est simplement 15 espèces d'oiseaux. Je dirais que tout le reste, c'est des petits nombres et c'est pas très très intéressant. Mais en gros, si on connaît 15 espèces d'oiseaux et 25 même, je dirais à 25 sur les quand même près de 200 espèces d'oiseaux en France, donc c'est un relativement petit nombre, très vite, hein, on peut déjà être performant sur cette enquête. Le plus commun dans les jardins en Bretagne, c'est sans doute le rouge-gorge. Il y a toujours un ou deux. Il y a la mésange bleue, la mésange charbonnière, qui sont deux mésanges différentes qui en général ne sont pas confondues. Et il y a le moineau domestique. Il a une caractéristique, en fait, c'est dans les jardins, soit il est là avec plus de 5 oiseaux, soit il n'est pas là, donc il est à zéro. Donc il y a très peu de jardins avec un petit peu de moineaux. Souvent, on a beaucoup de moineaux. C'est une espèce grégaire qui fonctionne en bande organisée, je dirais. Et puis donc, il y a les espèces comme le rouge-gorge, l'accenteur mouché, le troglodyte, qui fonctionnent en petit nombre. Si vous avez une mangeoire, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de verdiers qui décident de venir et qui s'installent cet hiver à la mangeoire, ou des chardonnerets. Vous avez des espèces qui vont être sensibles aux mangeoires. Et puis, vous avez des espèces communes comme le merle noir aussi qui vont être présentes, la griffe musicienne. Donc moi ce matin j'étais en ville à Rennes, j'avais le goéland argenté, parce que le goéland argenté est relativement commun à Rennes. Et curieusement à Rennes on parle beaucoup des étourneaux, mais en fait moi dans les enquêtes jardin que je fais à Rennes depuis 2012, il n'est pas tellement là dans la journée, il est surtout là le soir quand il vient dormir dans la ville.
La Rennes c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.